Vous écoutez RTL.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les arrière-cuisines peu ragoûtantes de Burger King.
Des sans-papiers travaillant dans plusieurs restaurants sont en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail, chantage, salaire divisé par deux. L'enquête d'RTL dès le début de ce journal. Le vaccin contre la grippe désormais possible dans certaines pharmacies alors que l'hiver approche. Mais la campagne peine à convaincre. 7 Français sur 10 seulement refusent de se faire piquer.
Alors feriez-vous confiance à votre pharmacien pour vous vacciner? Est-ce leur rôle? Ça grogne du côté des médecins et des infirmiers libéraux. Nous ouvrons le débat sur RTL à 8h20. Nous aurons 6 minutes pour trancher et vous pouvez réagir au 32-10.
Un Bourbon qui défie la révolution en Espagne. Allocution historique du roi Felipe VI. Il condamne sans ménagement les indépendantistes, vous l'entendrez. Et puis les buralistes sont-ils vraiment les grands perdants de la politique anti-tabac? Ce sera la question du 8h. La profession manifeste à nouveau aujourd'hui.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
C'est une grève qui risque de faire beaucoup de bruit à Paris. Une vingtaine de personnes travaillant pour Burger King ont décidé de monter au créneau avec le soutien de la CGT. Ce sont des sans-papiers payés au lance-pierre. Leur piquet de grève, ils l'ont installé dans le Burger King de la place de la République. C'est une enquête RTL. Avant de détailler tout cela avec Sinamir, écoutez le témoignage de ce salarié. Il a 23 ans, il s'appelle Ashraf et il raconte ses conditions de travail.
Des fois, on fait de l'ouverture du 7h du matin jusqu'à 7h du soir. À la fin, on reçoit que 3h qu'on est déclaré. Avec 700 euros, on ne peut rien faire. Alors, on a demandé à nos chefs si on peut travailler les jours de repos pour augmenter le salaire. Alors, on travaille 7 jours sur 7 pendant un mois, deux mois. Et à la fin du mois, on reçoit les fiches de paye, 3 jours d'absence. Et il y a les caméras, il y a les témoins, il y a tout. On est vraiment des esclaves chez eux. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans les brûleurs. Pour les nettoyer, t'as besoin que du produit chimique. Je vous jure, monsieur, ça fait même pas une semaine. J'étais en train de nettoyer les hôtes, j'avais pas de lunettes, j'avais pas de gants, ça brûle les mains.
Comment vous faites pour supporter tout ça?
On supporte parce qu'on est sans papier, parce qu'il nous a promis de régulariser tous. Ça fait un an que ça continue, ça continue. Dès qu'on parle, on reçoit des menaces.
Témoignage d'Ashraf, employé chez Burger King. Vous l'avez entendu, il parle d'esclavage. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Bonjour Sinamir.
Bonjour.
Première question, est-ce que Burger King est au courant de ce qui se passe chez eux?
En tout cas, aujourd'hui, il ne peut plus le nier. Derrière les témoignages de ces travailleurs de l'ombre, comme Ashraf, Sekou ou Zoubir, l'inspection du travail a procédé en début de semaine à 10 contrôles sur les sites concernés en Ile-de-France. Il est question toujours de travail sous-payé, sous-déclaré, d'exposition à des produits très corrosifs qui demandent beaucoup plus de protection. Et sur dernier point, la responsabilité de Burger King est clairement en cause. La chaîne se défend en évoquant son système de contrôle et reporte la faute sur son prestataire qui emploie directement ses travailleurs sans papier. C'est tout le problème de la sous-traitance. Rémi Picot est secrétaire de la CGT Commerce de Paris.
On n'irait pas dire que Burger King organise ça. Moi, j'espère fortement qu'ils ne savent pas ce qui se passe. C'est un petit peu le côté hypocrite de la sous-traitance, dans un musée, dans un ministère, ou ce que vous voudrez, qui fait complètement tomber, je veux dire, les responsabilités du donneur d'ordre.
Alors, Sinas, ce sous-traitant, qu'est-ce qu'il dit?
Qu'il découvre bien sûr le poteau rose. Cela fait pourtant 2 ans au moins que cette société de nettoyage emploie certains de ses salariés africains en situation irrégulière, qui présentent tous de faux papiers italiens ou portugais, sans éveiller aucun soupçon. Les accusations qui pèsent sur un de ses recruteurs sont très lourdes. Il aurait même fourni directement ou indirectement de fausses pièces d'identité contre rémunération à ses travailleurs. Une plainte a même été déposée contre un cadre de cette société de nettoyage.
Enquête RTL signée Sinamir. Merci Sina.
RTL Matin, il est 8h04.
En Espagne, 6 minutes qui ont sans doute fait basculer la crise dans une nouvelle dimension.
C'est la durée de l'allocution de Felipe VI à la télévision. Un événement rarissime. Le souverain ne parle habituellement qu'à Noël. Assis derrière son bureau, le descendant des rois de France a laissé de côté son traditionnel discours rassembleur pour prendre fait et cause contre les indépendants catalan.
Aujourd'hui, la société catalane est fracturée et mise au défi. Le sentiment de solidarité qui unit et continue d'unir l'ensemble du peuple espagnol a été dénigré. Cette conduite irresponsable peut mettre en danger la stabilité sociale et économique de la Catalogne, mais aussi de toute l'Espagne. Il est clair que les autorités catalanes sont en marge du droit et de la démocratie.
Le roi Felipe VI à la télévision et le gouvernement espagnol pourraient dégainer pour la première fois dans son histoire l'article 155 qui oblige une région, en l'occurrence la Catalogne, à respecter ses obligations. Les suites de la tuerie de Las Vegas, la compagne de Steven Paddock est rentrée des Philippines. Elle est arrivée sur le sol américain il y a près de 2 heures. Elle sera entendue par les enquêteurs. Paddock collectionnait les armes de depuis près de 20 ans. Il en avait 47. Donald Trump sera sur place aujourd'hui à Las Vegas.
5 personnes sont en garde à vue à Marseille après l'attentat de dimanche.
Ce sont des connaissances du terroriste. Son profil djihadiste ne fait plus de doute. L'exploration de son téléphone portable a montré qu'il avait consulté des vidéos islamistes d'après les informations de RTL. Un point intrigue également les enquêteurs. Le tueur avait reçu 2000 euros en plusieurs versements peu de temps avant de passer à l'acte. Il a avoué en garde à vue, l'incendiaire de Mulhouse a été mis en examen. 5 habitants d'un HLM, pour la plupart des enfants, avaient trouvé la mort dans la nuit de dimanche à lundi.
RTL Matin, il est 8h06.
La grippe arrive et le vaccin aussi.
La dernière épidémie avait fait 14 000 morts en France. Le vaccin n'est pas une protection imparable. Son efficacité dépend du type de virus. Mais il reste fortement recommandé. Et pour la première fois cette année, il pourra être injecté par les pharmaciens dans 2 régions test, Rhône-Alpes-Auvergne et Nouvelle-Aquitaine. Et comme c'est nouveau, eh bien, il a fallu se familiariser avec ce geste réservé jusqu'à présent aux médecins. Reportage à Bordeaux de Philippe Demaria.
Patrick Saint-Thirier, docteur en pharmacie, a dû retourner à l'école pour apprendre à vacciner et c'est toute une pratique qu'il a dû intégrer.
L'apprentissage du geste était indispensable. On a des règles à respecter, des règles d'asepsie, aussi bien pour nous par le port de gants que par la désinfection de la peau du patient, l'injection, l'élimination de la seringue du vaccin.
Patrick va vacciner dans une pièce fermée de son officine. Le patient, qui n'aura rien à débourser, arrive avec sa prescription de vaccin anti-grippe sans rendez-vous, mais le pharmacien n'est pas autorisé à vacciner tout le monde.
Les primo-vaccinants, c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais été vaccinées, les pharmaciens ne peuvent pas les vacciner. Il faut qu'ils soient majeurs. D'autres, il y a des pathologies ou des traitements qui contre-indiquent la vaccination. Ça exclut.
Et cette nouvelle possibilité ne doit pas empiéter sur l'activité des autres professions médicales, selon le pharmacien Patrick Saint-Thirier.
Le but, c'est d'augmenter la couverture vaccinale. C'est pas aller chercher les patients qui habituellement étaient vaccinés par les infirmiers ou par les médecins, d'aller chercher ces patients. C'est aller chercher d'autres patients qui ne se vaccinent pas pour des questions de temps, qui voient leur médecin tous les 3 mois, voire tous les 6 mois. Et c'est ces patients qu'on va chercher.
Philippe Demaria, d'après un sondage IFOP pour BFM TV, 7 Français sur 10 disent qu'ils ne se feront pas vacciner cet hiver contre la grippe.
Et à 8h20, nous aurons 6 minutes pour trancher si vous avez confiance en votre pharmacien pour vous vacciner et confiance tout simplement dans le vaccin contre la grippe. Réaction au 32-10.
C'est le nouveau combat de Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique veut s'attaquer aux passoires thermiques, ces logements mal isolés. D'après un document de travail que s'est procuré le journal Le Parisien, il voudrait taxer les propriétaires concernés sur le modèle du bonus malus des voitures. Le gouvernement précédent avait fixé comme objectif la rénovation de 500 000 logements. Nicolas Hulot en vise, lui, 7 à 8 millions.
Dès la fin de ce journal, je vous rappelle que nous avons rendez-vous avec Michel Simès. Mais avant cela, cette nouvelle manifestation de buralistes ce matin et cette question, sont-ils vraiment victimes de la politique anti-tabac? Ça n'est peut-être pas aussi évident que ça. Réponse dans un instant.
RTL Matin.
Il est 8h10, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Les buralistes manifestent en direction du ministère de la Santé.
Ils sont partis de Maison-Alfort au sud de Paris. C'est une opération escargot. On note déjà des ralentissements sur le périphérique sud-est extérieur en direction de la place d'Italie. Alors que le paquet de cigarettes va passer à 10 euros d'ici 2020, les buralistes dénoncent l'absence de lutte contre le marché parallèle qui représenterait, selon eux, 250 millions d'euros par an de manque à gagner.
Alors, nos buralistes sont-ils vraiment les grands perdants de la politique anti-tabac? C'est la question du 8.
Avec vous, Martial You, bonjour.
Bonjour.
D'abord, une question très simple. Le tabac, ça représente quelle part de leur chiffre d'affaires?
50% pour les bureaux de tabac qui n'ont pas un café en plus. Donc, la hausse impacte la moitié de l'activité seulement, hein, puisque le reste, c'est la vente de journaux, 20%, l'activité française des jeux, les ventes de chewing-gum ou les comptes bancaires nickel qui représentent 30%.
Alors, si le prix du tabac augmente, on se dit que le revenu des buralistes aussi.
C'est vrai, puisque les buralistes touchent 7,5% de marge brute sur la vente d'un paquet. Donc, ils touchent 52 centimes en ce moment sur un paquet à 7 euros, ils toucheront 75 voire 80 centimes avec un paquet à 10 euros parce que leur commission va augmenter dans les années qui viennent. Le souci, c'est qu'ils vont toucher plus mais sur moins de ventes puisque les gens achèteront leurs cigarettes à l'étranger. Pour autant, et la Cour des comptes l'a déjà dénoncé dans un rapport, la hausse des prix du paquet plus la hausse du marché parallèle plus les opérations escargots comme ce matin et les tonnes de carottes qui vont être déversées devant le ministère de la Santé, tout ça conduit l'État à accorder en permanence des aides pour calmer la grogne des buralistes et maintenir leur établissement en vie. Une aide coûteuse pour l'État, plus de 300 millions par an. Les petits buralistes touchent ainsi une aide de 2000 euros pour se diversifier dans la vente de nouveaux produits. L'État prend en charge 25% des travaux de rénovation d'un établissement. Il compense aussi la perte de recettes dans les départements où la consommation baisse fortement. Donc, au final, on maintient par des aides publiques le revenu des buralistes malgré la baisse de chiffre d'affaires. Et ça n'empêche pas la fermeture de 800 à 1000 bureaux par an au rythme de la fermeture des commerces de proximité en zone rurale.
La question de 8h avec Martial Youf.
Emmanuel Macron en campagne contre son image de président des riches. Après Amiens, il est aujourd'hui à Égletons en Corrèze pour détailler ses mesures pour la formation professionnelle. Et puis cette étude qui tombe à pic, elle émane de la direction du Trésor, c'est-à-dire de Bercy. C'est une simulation. Les plus modestes, ceux qui gagnent au moins de 13 600 euros par an, verront leur pouvoir d'achat augmenter de 3% sur le quinquennat grâce notamment aux baisses d'impôts. À l'inverse de Force ouvrière, la CFDT ne défilera pas contre la réforme du Code du travail. Son leader, Laurent Berger, s'y refuse par souci d'efficacité, dit-il, puisque les ordonnances ont déjà été signées. Et puis, après le retard à l'allumage, Orange lancera sa banque en ligne le 2 novembre, la veille du lancement de l'iPhone 10. Orange espère attirer 2 millions de clients dans les 10 ans.
RTL Matin, il est 8h13.
Les Républicains n'ont plus de Républicains que le nom. C'est la charge ce matin sur RTL du député Thierry Soler.
Il fait partie des 5 menacés d'exclusion à droite pour avoir pactisé avec Emmanuel Macron. C'est le cas aussi d'Édouard Philippe, de Gérald Darmanin. Ils ont une semaine pour justifier leur choix, sinon ce sera la porte. Thierry Soler espère régler ça autour d'un café, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Sans doute un oubli, la porte-parole de la France Insoumise, Raquel Garrido, qui en dehors de ses chroniques à la télé, est aussi avocate. Elle n'a jamais réglé ses cotisations retraite. Elle doit plus de 32 000 euros. Information du Canard Enchaîné.
Et pour finir, l'histoire du jour, avec une petite annonce pas comme les autres.
Il n'y a pas que les médecins qui ont du mal à trouver des successeurs, les agriculteurs aussi sont concernés par cette crise de vocation, à l'image de Françoise Augrasse, qui élève des chèvres depuis un demi-siècle maintenant à Tercia, c'est dans la Creuse. À 72 ans, elle espère trouver un repreneur.
On peut vivre de ce métier-là, mais il faut le faire intelligemment. C'est un savoir-faire de faire des fromages. Hein. C'est toute la vie que j'ai passé là-dedans. Il faut être courageux, il faut aimer les biquettes, il faut aimer la nature, il faut aimer le contact commerce. Allez, hop, 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 hop. Quand je passe une annonce, voilà, je dis que c'est une production caprine avec transformation fromagère qui comprend bâtiment agricole, cheptel, terrain, matériel, laboratoire, maison d'habitation. Ça a été estimé à 350 et je le laisse à 300 000 euros. J'ai mon intention d'accompagner ceux qui reprennent, s'ils veulent. S'ils ne veulent pas, je ne vais pas me battre avec.
Vous avez hâte ?
Honnêtement, oui. Mais si je trouve pas, je lâcherai pas.
Caprine, c'est fini ou presque. L'appel de Françoise, éleveuse dans la Creuse, elle était au micro de Guillaume Frixon.
Elle est touchante, notre Françoise, ouais. Et c'était le journal de Jérôme Florin.